sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Comme chaque année, l'Académie des sciences attribue une centaine de prix à des chercheurs français et étrangers. Pour cette année 2008, l'Académie a décidé de remettre ses prestigieuses récompenses au cours de deux cérémonies. Canal Académie retransmet ici la première qui s'est déroulée le 21 octobre. Trois temps forts au cours de cette journée. Jules Hoffmann, président pour l'année 2008 de l'Académie des sciences, évoque, comme il est de coutume, la mémoire de deux confrères disparus, Henri Cartan, éminent mathématicien, membre fondateur du groupe Bourbaki, et Roger Monnier, biochimiste. Puis Jean-François Beck et Jean Dercourt, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, se sont relayés tour à tour pour présenter les travaux des lauréats. Parmi eux, Jean-Pierre Majoral, directeur de recherche émérite au CNRS, laboratoire de chimie de coordination de Toulouse. Il a reçu le prix Émile Jungfleisch de l'Académie des sciences, un prix doté de 150 000 euros. Enfin, la cérémonie s'est clôturée par la communication de Jean-Pierre Changeux, membre de l'Académie des sciences, professeur au Collège de France, sur le récepteur de l'acétylcholine et la dépendance à la nicotine. Laissons place tout de suite à Jules Hoffmann.
La séance est ouverte. Monsieur le Président de l'Institut, Messieurs les secrétaires perpétuels, chers consoeurs et confrères, Mesdames et Messieurs, chers amis, comme chaque année, l'Académie des sciences consacre une séance solennelle à honorer et féliciter les lauréats des prix qu'elle décerne. C'est en effet l'un des rôles majeurs de notre compagnie que de reconnaître et de distinguer les meilleurs talents de notre communauté, qui sont à l'origine des grandes avancées scientifiques. Exceptionnellement, cette année, l'Académie a été amenée à prévoir deux séances solennelles de remise des prix, et la deuxième aura lieu le 25 novembre. Jean-François Bach, secrétaire perpétuel, vous présentera dans un instant Jean-Pierre Majoral, lauréat du Grand Prix Émile Jungfleisch. Puis lecture sera faite des palmarès, des grands prix et des prix thématiques. Notre confrère Jean-Pierre Changeux conclura cette séance par une conférence sur le thème « Le récepteur de l'acétylcholine et la dépendance à la nicotine ». Avant de donner la parole à mon confrère Jean-François Bach, je voudrais évoquer deux personnalités scientifiques exceptionnelles qui viennent de nous quitter, Henri Cartan et Roger Monnier. Henri Cartan, fils d'Élie Cartan, lui aussi grand mathématicien français et académicien, a été élu membre de l'Académie des sciences dans la section mathématiques en 1974. Il est décédé le 13 août dernier à l'âge de 104 ans. Il était notre doyen. Élève de l'École normale supérieure de Paris de 1923 à 1926, professeur à la Faculté des sciences de Strasbourg de 1936 à 1940, professeur à la Sorbonne et à l'ENS, il a terminé sa carrière d'enseignant-chercheur à l'Université Paris-Sud à Orsay en 1975. La plupart de ses travaux ont porté sur les fonctions analytiques de plusieurs variables complexes, ainsi que sur la topologie algébrique et sur l'algèbre homologique. Son ouvrage « Homological Algebra », écrit en collaboration avec un collègue américain, le professeur Eilenberg, est devenu le grand classique du domaine. Membre fondateur du groupe Bourbaki en 1935 avec plusieurs autres mathématiciens, Henri Cartan a fortement contribué à la réforme et au rayonnement de cette discipline en France et à l'étranger. L'une de ses activités les plus importantes a porté sur les séminaires Cartan qu'il a dirigé à l'École normale supérieure de 1948 à 1964. C'est là que nombre des mathématiciens français, parmi les plus illustres, se sont formés, dont Jean-Pierre Serre et René Thom. Henri Cartan a également mené des actions pour la défense des mathématiciens injustement privés de liberté et a reçu pour cet engagement le prix Pagels de l'Académie des sciences de New York. Partisan enthousiaste de la construction de l'Europe, il a entretenu des relations particulièrement étroites avec les mathématiciens allemands. Parmi les prestigieuses distinctions qui lui furent attribuées, je citerai en particulier la médaille d'or du CNRS en 1976 et le prix international Wolf de mathématiques en 1980, dont il fut l'un des premiers titulaires. Henri Cartan a été le grand inspirateur de l'école mathématique française après la Seconde Guerre mondiale. Son influence en France et à l'étranger a été immense. Roger Monnier fut un grand biochimiste et biologiste moléculaire. Élu membre de notre académie en 1992 dans la section biologie moléculaire et cellulaire, il vient de décéder le 14 septembre dans sa 84e année. Roger Monnier était ingénieur agronome de formation. Après une soutenance de thèse, il avait intégré le CNRS où il a poursuivi toute sa carrière. L'œuvre scientifique de Roger Monnier a marqué à la fois la biochimie, la virologie moléculaire et la cancérologie. En effet, après des études sur les structures et fonctions des protéines, Roger Monnier s'est intéressé aux mécanismes de synthèse de ces molécules au sein de la cellule. Il s'est par la suite orienté vers l'analyse cellulaire et moléculaire des mécanismes de la cancérogénèse. Roger Monnier a eu une carrière exceptionnelle marqué à la fois par des résultats innovants et par une vision scientifique profonde et originale. En parallèle à ses travaux de recherche et à ses enseignements, Roger Monnier exerça de nombreuses fonctions au service de la communauté scientifique. Il fut sous-directeur du Centre de biochimie et biologie moléculaire à Marseille de 1967 à 1972, puis directeur de l'Institut de recherche scientifique sur le cancer à Villejuif de 1972 à 1981 et directeur du laboratoire d'oncologie moléculaire de l'Institut Gustave Roussy de 1984 à 1994. De 1980 à 1985, il a assumé l'importante responsabilité de la direction scientifique du département des sciences de la vie au CNRS. À l'Académie, son implication a été particulièrement forte, notamment dans l'élaboration, avec Jean Salençon, des nouveaux statuts et du règlement intérieur de notre compagnie, adoptés en 2002-2003. Sa sagesse, sa rigueur et son dévouement lui ont valu le respect et l'admiration de tous. La perte de nos deux confrères nous affecte profondément et crée un grand vide au sein de notre compagnie. Je vous propose d'honorer leur mémoire en observant une minute de silence. Je vous remercie. Je passe maintenant la parole au secrétaire perpétuel Jean-François Bach.
Le prix Émile Jungfleisch est le prix le mieux doté de l'Académie des sciences. Il est décerné cette année à Jean-Pierre Majoral, directeur de recherche émérite au CNRS, au laboratoire de chimie de coordination à Toulouse. Jean-Pierre Majoral et son équipe ont réalisé une véritable œuvre de pionnier au cours de ces 10 dernières années dans le domaine des dendrimères et de leurs applications. Les dendrimères sont des macromolécules constituées de monomères associées à un cœur plurifonctionnel selon un processus itératif. La répétition d'une même séquence réactionnelle conduit à la formation d'une structure arborescente hautement ramifiée ayant la forme d'une sphère avec une périphérie aux fonctions multiples et des cavités internes. Jean-Pierre Majoral a développé une chimie très sophistiquée, multi-étapes, aboutissant à l'élaboration de plus de 1000 dendrimères phosphorés, différents par leur dimension, leur poids moléculaire, leur morphologie, leur topologie, mais aussi à la fonctionnalisation de ces nanosphères, tant pour ce qui concerne leur surface que leurs cavités internes. On peut distinguer parmi les contributions de Jean-Pierre Majoral à l'interface de la chimie organique et de la biologie quatre faits particulièrement marquants. La démonstration de l'activité anti-prion de certains dendrimères phosphorés hydrosolubles inhibant la synthèse de la forme scrappy de la protéine du prion. L'utilisation de dendrimères hydrosolubles pour la transfection de l'ADN. La démonstration de l'induction de la multiplication de cellules NK, des cellules naturelles tueuses impliquées dans l'immunité antitumorale, permettant l'élimination de tumeurs dans des modèles expérimentaux in vivo et la multiplication in vitro de cellules naturelles tueuses chez l'homme, comme cela a été démontré chez plus de 100 patients atteints de myélome multiple. Enfin, l'activation de monocytes conduisant à une réaction de type anti-inflammatoire en cours d'évaluation dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Il faut féliciter Jean-Pierre Majoral et son équipe de cette œuvre remarquable et innovante de nanochimie conduisant à des applications majeures dans le domaine de la biologie, de la médecine et de la production de matériaux biocompatibles. Jean-Pierre Majoral.
Merci, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie. Simplement quelques mots. Lorsqu'on exerce un métier qui est véritablement une passion, lorsqu'on a la chance d'être pionnier dans un domaine de recherche aux applications multiples, lorsqu'on a également la chance que nos travaux soient reconnus et honorés par la communauté scientifique, alors si on a cette chance-là, on a une certaine fierté, une sérénité, mais on éprouve surtout un besoin profond de reconnaissance, reconnaissance non seulement vis-à-vis des chercheurs permanents qui travaillent dans l'équipe pour leur contribution à ce travail, pour leur créativité, mais également un sentiment profond de reconnaissance vis-à-vis de tous les étudiants en thèse et tous les stagiaires postdoctoraux. Et c'est à l'ensemble de ces personnes que j'aimerais dédier aujourd'hui cette distinction. Avant de terminer, je voudrais, au nom de tous les lauréats de cette journée, dont les prix et les noms seront énumérés et évoqués dans un moment, remercier l'Académie pour cette aide efficace, également pour l'implication de l'Académie dans le développement de la science dans notre pays. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur Majoral. Nous passons maintenant au prix suivant. Le prix Jean-Pierre Lecoq est décerné à Lucienne Châtenoux, professeure d'immunologie à l'Université Paris-Descartes, membre senior de l'Institut universitaire de France. Lucienne Châtenoux a accompli un travail remarquable à l'interface de l'immunologie fondamentale et de l'application clinique dans les domaines de l'auto-immunité et de la transplantation d'organes. En particulier, elle a caractérisé le mécanisme d'action du premier anticorps monoclonal utilisé avec succès en thérapie chez l'homme. Elle a établi chez une souris qui représente un modèle pour l'étude du diabète insulino-dépendant spontané une méthode originale de traitement de cette forme de diabète. Cette nouvelle méthode lui a permis en effet d'induire une rémission quasi définitive de la maladie après seulement 5 injections d'un anticorps monoclonal dirigé contre une des protéines du complexe récepteur qui confère aux lymphocytes T la capacité de répondre à l'antigène. En collaboration avec des cliniciens allemands et belges, Lucienne Châtenoux a récemment montré que cette nouvelle stratégie thérapeutique pouvait être également appliquée dans le diabète chez l'homme. Les résultats obtenus sont spectaculaires. Une seule semaine de traitement par cet anticorps a conduit à un arrêt prolongé, jusqu'à 4 ans, de la destruction des cellules productrices d'insuline dans le pancréas et a bloqué la progression du diabète. Ainsi, Lucienne Châtenoux a ouvert une nouvelle voie très prometteuse d'immunothérapie du diabète insulino-dépendant. Cette voie pourrait être étendue à d'autres maladies auto-immunes telles que la sclérose en plaques comme l'indiquent les résultats obtenus dans un modèle expérimental de la maladie chez la souris. Lucienne Châteloup. Alors, le prix Louis-Gentil Jacques Bourcard.
Olivier Devauchel est attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Institut de physique du globe à Paris, à l'Université Denis Diderot. Il a effectué des travaux théoriques novateurs sur des phénomènes d'érosion en rivière. Il a su expliquer les expériences effectuées en régime laminaire sur des modèles de micro-rivières capables de conduire à l'émergence de formes considérées comme caractéristiques du régime turbulent. Il a montré que l'étude de la stabilité des équations de l'érosion laminaire conduit en fait à des résultats tout à fait comparables à ceux de la géomorphologie classique des cours d'eau naturels turbulents. Il a ainsi fait grandement progresser la compréhension des causes réelles des géomorphologies des fleuves. L'attribution du prix Louis-Gentil Jacques Bourcard, qui vient d'être créé et qui est distribué pour la première fois, lui permettra de poursuivre ses découvertes au laboratoire de géophysique du MIT aux États-Unis, où expérience à petite échelle, observation fréquente de terrain et modèles mathématiques sont la règle. Olivier Devauchel, son un de ses parents, puisque Olivier est ailleurs, Maïti viendra recevoir la médaille.
Le prix Charles-Léopold Meyer. Le prix Charles-Léopold Meyer est décerné à Adrian Bird, directeur du Wellcome Trust Center for Cell Biology à l'Université d'Édimbourg. Le nom d'Adrian Bird est associé à la découverte du rôle que joue l'addition de groupements méthyl à l'ADN dans le contrôle de l'expression du génome, dans son évolution et dans l'apparition de certaines maladies. Adrian Bird a construit la première carte de restriction des sites de méthylation dans l'ADN génomique. Il a aussi caractérisé des protéines qui reconnaissent les motifs dits nucléotidiques CPG méthylés et révélé leur rôle dans la régulation épigénétique du génome, en particulier au cours de la transformation tumorale. Adrian Bird a montré que les mutations dans ces gènes sont associées à des maladies neurologiques, dont le syndrome de Rett, déficit mental. Il a pu construire, par une approche génétique, un remarquable modèle de ce syndrome chez la souris. Adrian Bird est l'un des fondateurs du domaine de l'épigénétique et un des grands leaders mondiaux en génomique, en biologie moléculaire fonctionnelle. Adrian Bird. Prix Gérard Mégy.
Le prix est attribué à Thierry Fichefet, professeur de physique et de climatologie à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve et responsable du célèbre Institut d'astronomie et de géophysique Georges Lemaître. Chercheur mondialement connu, ses travaux portent sur la modélisation des interactions entre la cryosphère et le climat. Le modèle de glace de mer qu'il a développé avec ses collaborateurs est adopté par de très nombreux laboratoires de modélisation du climat et des océans. Couplé à différents modèles océaniques, il a notamment permis de préciser l'importance des interactions glace-océan pour la circulation générale des océans. Thierry Fichelet a aussi contribué à la mise au point de modèles climatiques utilisés pour étudier les mécanismes responsables du dernier cycle glaciaire-interglaciaire, pour simuler les changements de circulation océanique survenus lors du dernier maximum glaciaire il y a 18 000 ans, pour établir l'origine du changement climatique abrupt qui s'est produit il y a environ 8 200 ans. Son équipe a quantifié l'influence qu'aurait sur la circulation mondiale au cours des prochains millénaires la fonte des glaces du Groenland liée à la concentration attendue des gaz à effet de serre. Thierry Fichelet.
Prix Pierre et Cyril Grivet.
Le prix Pierre et Cyril Grivet est attribué à Alain Vian, maître de conférence, animateur d'un groupe de recherche au laboratoire des sciences des matériaux pour l'automatique et l'électronique à l'université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. Utilisant la chambre de brassage de mode installée au laboratoire, Alain Vian a pu soumettre des plantules de tomates à des rayonnements électromagnétiques ayant des caractéristiques comparables à celles des rayonnements émis par l'utilisation du téléphone portable. Il a montré que ces rayonnements pouvaient induire l'accumulation transitoire de certains acides nucléiques, plus particulièrement ribonucléiques messagers, codant pour la calmodulinine, le facteur de transcription BZIP ou une tyrosine kinase, sous la dépendance du calcium et de certaines phytohormones comme l'acide abscisique et l'acide jasmonique. Ainsi est démontré le fait que l'irradiation par ce type de rayonnement électromagnétique à ces doses peut induire une modification de l'expression du génome. Sans dire pour autant, il n'y a aucune indication à ce stade des recherches, que ces modifications se traduisent par un effet délétère sur les cellules irradiées. L'attribution de ce prix est associée à une bourse qui va permettre à un étudiant post-doctorant de rejoindre l'équipe d'Alain Vian pour y poursuivre les travaux de biologie moléculaire déjà entrepris. Alain Vian.
Prix Michel Gouillou-Schlumberger.
Jean-Marc Zanotti est ingénieur-chercheur au commissariat à l'énergie atomique, spécialiste des propriétés dynamiques de l'eau. Il a mis en évidence des propriétés dynamiques très particulières de l'eau. Sous confinement nanométrique extrême ou en présence de micro-couches dans les surfaces, et a montré que pour la première fois que des molécules d'eau font preuve d'une mobilité inattendue à des températures aussi basses que moins 113 degrés Celsius. On a donné une interprétation mécanistique au niveau atomique. Les implications de ces travaux, à caractère encore fondamental, s'étendent de la biophysique à la géophysique. Sans ce dernier domaine, on peut en particulier envisager développement important pour les exploitations pétrolières ou gazières, économiquement viables, des réservoirs très faiblement perméables, et ils sont nombreux. Jean-Marc Zanotti.
Prix René Turpin.
Le prix René Turpin de cancérologie est décerné à Claude Sardet, directeur de recherche au CNRS, à l'Institut de génétique moléculaire à Montpellier. Claude Sardet s'est engagé pendant sa thèse dans le clonage du premier échangeur Na+H+, NaHe1, par une approche de génétique fonctionnelle inverse. Il s'est ensuite intéressé au rôle des MAP kinases dans les proliférations cellulaires et a contribué à la première démonstration de la translocation nucléaire de ces MAP kinases, qui est tout à fait importante dans le contrôle des proliférations des cellules normales ou cancéreuses. Il a ensuite participé à la mise au point et à la description de la technique de double hybride chez la levure et a utilisé cette technique pour cloner et caractériser plusieurs acteurs essentiels contrôlant la division cellulaire. Claude Sardet a ainsi montré que l'une de ces molécules avait une expression augmentée dans les tumeurs du sein et que cette augmentation d'expression était associée au mécanisme de l'oncogénèse dans ces tumeurs. Plus récemment, il a montré qu'une autre de ces molécules jouait un rôle central dans la décision qui s'opère au niveau des cellules normales et surtout cancéreuses entre l'apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire, et la prolifération. Claude Sardet, après toutes ces années, a acquis une notoriété internationale majeure dans le domaine du contrôle de la division cellulaire et de la pathologie cancéreuse. Claude Sardet.
Prix Dolomieux, prix fondé par le BRGM.
Bernard Dupré est directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire Midi-Pyrénées à Toulouse. Il est l'un des meilleurs géochimistes de sa génération. Son parcours scientifique est exceptionnel et s'analyse en deux étapes. Dans la première, il a participé au plan mondial l'aventure de la géochimie et la géodynamique chimique. S'appuyant sur les traceurs isotopiques, il a réalisé des contributions majeures à l'étude de l'hétérogénéité chimique des roches du manteau terrestre et de son évolution au cours des temps géologiques. Il est co-découvreur de l'anomalie Dupal pour Dupré-Allègre, qui reflète une composition isotopique particulière des basaltes de certaines régions océaniques, apportant ainsi des contraintes fortes sur des modèles d'évolution du manteau terrestre. Mais depuis une quinzaine d'années, une seconde étape est ouverte par Bernard Dupré, qui applique les méthodes géochimiques à l'évolution de la surface terrestre, l'objectif étant de comprendre le rôle de l'érosion et de l'altération des roches dans les transferts du CO2 entre atmosphère et sol, avec des implications importantes sur des variations de climat de la Terre aux échelles des temps géologiques ici aussi. Dans ce domaine, les contributions de Bernard Dupré sont, comme les précédentes, de tout premier plan. Bernard Dupré.
Prix de l'Institut français du pétrole.
Le prix de l'Institut français du pétrole est décerné à Victor de Lorenzo, professeur de recherche au Conseil supérieur de la recherche scientifique au Centre national de biotechnologie à l'Université autonome de Madrid. Depuis de nombreuses années, Victor de Lorenzo a consacré son œuvre à la bioremédiation, un ensemble de techniques permettant d'augmenter la biodégradation ou la biotransformation de substances chimiques toxiques pour l'environnement biologique, les xénobiotiques, dans le but de lutter contre les pollutions. Victor de Lorenzo a choisi comme modèle d'étude Pseudomonas butida, une bactérie dont il était connu qu'elle était capable d'assurer le recyclage biologique d'hydrocarbures aromatiques. Victor de Lorenzo a ainsi pu mettre au point de nouvelles stratégies fondées sur la remédiation par ces bactéries et qui permettent de lutter contre les pollutions par ces hydrocarbures, notamment lors de rejets accidentels dans les mers. De façon plus générale, Victor de Lorenzo promeut de façon très remarquable le concept d'éco-ingénierie bactérienne. Victor de Lorenzo.
Le prix Alcan. Le prix est décerné conjointement à Yvan Chastel, professeur à l'École des mines de Paris, et Roland Loger, chargé de recherche au CNRS, tous deux au Centre de mise en forme des matériaux à Sofia Antipolis. Ces auteurs ont mené depuis plus de 13 ans des recherches souvent communes, sinon complémentaires, avec des philosophies très proches. Ces recherches se sont développées à l'École des mines de Paris, dans un contexte applicatif assez large et en lien avec l'industrie, en particulier celle des alliages d'aluminium. Leurs modèles sont basés en grande partie sur des couplages entre mécanique et microstructure avec une compensation numérique croissante, initialement basée sur des processus moyennés et simplifiés, ils aboutissent à des modèles microstructuraux multi-échelles très prometteurs. Ils réalisent un pont entre des avancées scientifiques fondamentales importantes et des domaines extrêmement concrets à vocation industrielle. Yvan Chastel et Roland Loger.
Prix de cancérologie.
Le prix de cancérologie Simone et Sino Del Duca de l'Institut de France est décerné à Clotilde Théry, chargée de recherche INSERM à l'Institut Curie. Clotilde Théry a consacré tout son travail depuis 1996 aux relations entre le système immunitaire et les cancers. Dans le laboratoire dirigé par le regretté Christian Bonnereau, puis par notre confrère Sébastien Migorena, Clotilde Théry a apporté des contributions très importantes décrivant la signature moléculaire et les fonctions physiologiques des exosomes, qui sont des particules membranaires sécrétées par les cellules dendritiques. Clotilde Théry a montré en particulier que ces organelles pouvaient augmenter de façon très significative la fonction de présentation des antigènes aux cellules T assurée par les cellules dendritiques et a pu indiquer des voies nouvelles pour mettre en pratique l'utilisation thérapeutique de ces exosomes. De fait, plusieurs protocoles sont en cours d'évaluation dans plusieurs types de tumeurs humaines. Au-delà de ces applications médicales, les travaux de Clotilde Théry ont une grande importance fondamentale car ils ouvrent les perspectives d'une nouvelle voie de transduction du signal. Clotilde Théry.
Prix thématique. Prix Agnetha Winterklein.
Le prix est décerné à Éric Vincent, chef de service de physique de l'état condensé au commissariat à l'énergie atomique à Gif-sur-Yvette. Éric Vincent est mondialement connu pour ses expériences sur les vers de spin. Ses travaux, développés en pleine connaissance des progrès théoriques faits parallèlement, ont permis de tester l'image d'une structure hiérarchique des états métastables et de comprendre les effets de mémoire, comme les phénomènes de vieillissement ou de rajeunissement, selon le protocole de refroidissement suivi dans les expériences. Éric Vincent.
Prix de l'État.
Le prix est décerné à Annie Jutant, directeur de recherche au CNRS, au département de chimie de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris. Annie Jutant est connue internationalement pour ses travaux sur les mécanismes de réaction catalysés par les métaux de transition et sur la double activation de molécules organiques par les métaux de transition et par transfert d'électrons. Elle a décrit les premières réactions de couplage carbone-carbone entre des halogénures aromatiques et des organomagnésiens et lithiens, réactions catalysées par le palladium et aussi les premiers couplages avec des énolates d'ester. Elle a ensuite développé des réactions d'électrosynthèse catalysées par le palladium et le nickel. Elle a ainsi développé l'électrosynthèse d'anti-inflammatoires par réaction du gaz carbonique CO2 avec des halogénures benzyliques alpha-méthylées catalysées par le nickel. Les études d'Annie Jutant permettent d'expliquer la spécificité des précurseurs catalytiques qui, en introduisant des ligands non innocents, affectent le mécanisme de la réaction catalytique. Annie Jutant.
Prix Philippe Guy.
Le prix est décerné à Patrick Bataille, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire chimie et ingénierie moléculaire à l'Université d'Angers. Par la création d'objets moléculaires anisotropes, sièges de propriétés électroniques collectives, Patrick Bataille a réalisé plusieurs percées majeures. Ses recherches en chimie et sciences des matériaux, à la frontière de la physique des systèmes d'électrons fortement corrélés en basse dimension et de la matière molle, ont eu un grand écho international. Patrick Bataille a formulé au début des années 80 le concept d'analogue moléculaire géant de solides minéraux ioniques à partir de la construction de sels d'ion radicaux hybrides organiques inorganiques. Les travaux de Patrick Bataille mettent la chimie moléculaire, la chimie de coordination et la chimie d'auto-assemblage au cœur de la chimie des matériaux et de la chimie de la matière condensée moderne. Patrick Bataille.
Prix Foulon.
Le prix Foulon de biologie intégrative. Le prix est décerné à Nicolas Franceschini, directeur de recherche au CNRS, à l'Institut des sciences du mouvement, à l'Université de la Méditerranée à Marseille. Nicolas Franceschini est un spécialiste de la vision. Il a étudié dans ses plus intimes détails le fonctionnement de l'œil d'insecte au niveau cellulaire. Ses travaux in vivo sur la rétine de la mouche constituent la base de nombreuses études actuelles en biologie du développement et en physiologie des comportements. Nicolas Franceschini est un des pionniers de la biorobotique, une science nouvelle aux confins de la neurobiologie, de la physique et des sciences de l'information. Cette nouvelle discipline apporte un éclairage entièrement nouveau sur les bases neurales du comportement animal et intéresse aujourd'hui les industries aéronautiques et spatiales. Nicolas Franceschini.
Prix Motard.
Le prix est décerné à Alexander Edelman, directeur de recherche au CNRS à l'Université de Paris-Descartes à Paris. La compréhension de la fonction du canal CFTR est d'importance majeure tant pour la physiologie des épithéliums que pour la compréhension des mécanismes de la mucoviscidose, maladie dont la cause est une mutation du gène codant pour le CFTR. Alexander Edelman a été le premier à utiliser une approche globale associant la protéomique fonctionnelle aux études du canal CFTR et de la mucoviscidose. Il a identifié les protéines exprimées par les tissus malades, comparativement aux tissus sains, au moyen de l'électrophorèse et de la spectrométrie de masse. Puis, il a précisé les fonctions des protéines identifiées et leur lien avec la physiopathologie de la maladie. Alexander Edelman.
Prix Paul Doisteau-Émile Bluté de l'information.
De l'information scientifique. Le prix est décerné à Francis Giresse, vice-président de l'Association de sauvegarde et d'études des instruments scientifiques et techniques de l'enseignement au musée Bernard d'Agessy à Niort. Francis Giresse est passionné pour les instruments de physique utilisés dans les établissements scolaires du 19e siècle, au 19e siècle. Il en a retrouvé un très grand nombre dans divers lycées de province, les a remis en état de marche et les a présentés au public en plusieurs expositions, à Périgueux, à Bergerac, à Bordeaux, à Pau, à Angoulême, à Paris, etc. Expositions dont certaines sont désormais permanentes. Au travers de ces expositions, les enfants et leurs parents découvrent des principes généraux de la physique grâce aux notices très pédagogiques qu'il a rédigées et au travers d'instruments dont chacun comprend le fonctionnement, dénués qu'ils sont de toute boîte noire. Francis Giresse travaille en quasi-solitaire, avec une extraordinaire ardeur, à une action d'excellente popularisation de la science. Francis Giresse.
Prix Aimé Poisson.
Le prix est décerné à Myriam Panetier-Lecoeur et Claude Fermont, tous deux physiciens au sein du groupe Nanomagnétisme du service de physique de l'état condensé du commissariat à l'énergie atomique à Saclay. Les travaux de Myriam Panetier-Lecoeur et Claude Fermont ont renouvelé la conception des capteurs magnétorésistifs en améliorant considérablement leurs caractéristiques, ce qui leur a permis d'en développer de nombreuses applications pratiques, originales et innovantes, adaptées à divers domaines de recherche et à des exploitations industrielles. Parmi celles-ci, des boussoles incorporées dans des montres ou des téléphones portables, des capteurs de courant pour compteurs électriques et autres, un système de protection active et passive des cartes de crédit, des imageurs pour magnéto-encéphalographie et magnéto-cardiographie, ou des détecteurs d'explosifs. Myriam Panetier-Lecoeur et Claude Fermont. Voilà.
Prix Ivan Pechès.
Le prix est décerné à Bernd Krambov, professeur à l'école des mines de Nantes. Bernd Krambov est l'un des premiers physico-chimistes qui a décrit et modélisé les mécanismes de l'altération du verre nucléaire, verre borosilicaté anthropique, par les solutions aqueuses naturelles. Ses travaux ont montré que ce verre pouvait confiner les éléments qu'il incorpore sur des temps géologiques. Ils ont initié une recherche fondamentale et appliquée sur l'utilisation du verre comme matrice des déchets nucléaires, recherche à laquelle ils participent. Aujourd'hui, le verre nucléaire, formulation R7T7, est et sera utilisé par EDF et Areva pour confiner tous les produits de fission et les actinides produits par le parc actuel des réacteurs, dans plus de 40 000 colis. Ces colis sont voués au stockage géologique. Le verre est le pivot de la politique française de gestion des déchets nucléaires de haute activité. Bernd Krambov.
Prix Pierre Fauré.
Le prix Pierre Fauré est décerné à Jean-Frédéric Gerbeau, directeur de recherche à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique à Rocancourt, autrement dit l'INRIA. Jean-Frédéric Gerbeau est un pionnier de la modélisation et de la simulation pour la compréhension des malformations cardiaques et des électrocardiogrammes. Il a fait de nombreuses innovations numériques pour obtenir un logiciel capable de donner des résultats fiables sur les écoulements dans le cœur et des réponses électromagnétiques simulées, analysables par les cardiologues. Il coopère activement avec les chercheurs en médecine et ces simulations ont permis d'analyser récemment l'effet des efforts physiques sur le comportement cardiaque dans le cas d'une hypoplasie gauche du cœur. Jean-Frédéric Gerbeau.
Nous allons maintenant procéder à l'analyse des prix des différentes sections, les prix de physique.
Prix de physique. Prix Madeleine Lecoq. Le prix est décerné à Hélène Le Sueur, docteur à l'université Pierre et Marie Curie à Paris. Hélène Le Sueur a réalisé un microscope fonctionnant aussi bien en force atomique, AFM, Atomic Force Microscope, qu'en mode tunnel, Scanning Tunneling Microscope, pouvant faire de la spectroscopie locale avec une sensibilité exceptionnelle et qui permet donc l'étude des effets de proximité dans les nanocircuits supraconducteurs. Hélène Le Sueur.
Le prix Lecomte.
Le prix Lecomte est décerné à Marie-Noëlle Bussac, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, au Centre de physique théorique à l'École polytechnique à Palaiseau. Marie-Noëlle Bussac a apporté une contribution fondamentale à la théorie de la stabilité des plasmas de fusion confinés magnétiquement. Ses résultats sont à la base du dimensionnement des expériences à venir dans les configurations du type tokamak, dont ITER fait partie. Marie-Noëlle Bussac.
Prix Jean Protas.
Le prix Jean Protas est décerné à Lydéric Boquet, professeur à l'université Claude Bernard à Lyon. Les contributions marquantes de Lydéric Boquet, alliant élégamment l'analyse théorique, la simulation numérique et l'expérience à la dynamique des phénomènes d'interface en mécanique des fluides, à l'hydrodynamique à l'échelle nanométrique et à la rhéologie des systèmes complexes et désordonnés, lui ont valu une renommée internationale. Lydéric Boquet, c'est la première remise de ce prix. Madame Prota va remettre ce prix.
Prix Langevin.
Le prix Langevin est décerné à Eugène Bogolmoni, directeur de recherche au laboratoire de physique théorique et modèles statistiques à l'Université Paris-Sud à Orsay. Eugène Bogolmoni, par ses contributions originales et marquantes, fait partie de la petite dizaine de physiciens théoriciens qui ont été à l'origine du domaine chaos quantique. Il a largement contribué à son développement. Certains de ses résultats ont eu des effets de stimulation et d'inspiration importants dans la communauté mathématique concernée. Eugène Bogolmoni.
Prix Anatole et Suzanne Abragam.
Le prix Anatole et Suzanne Abragam est décerné à Bertrand Relais, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique au laboratoire de physique des solides à Orsay. Bertrand Relais a apporté une contribution décisive à l'étude du transport, du bruit et de la supraconductivité dans des nanostructures conductrices et l'ADN. Bertrand Relais.
Après les prix de la section de physique, nous passons au prix des sciences mécaniques et informatiques.
Prix Michel Montpetit. Le prix est décerné à Françoise Lamnaby-Lagarigue, directeur de recherche au laboratoire des signaux et systèmes du Centre national de la recherche scientifique à l'Université Paris-Sud à Orsay. Théoricienne de l'automatique non linéaire, Françoise Lamnaby-Lagarrigue a obtenu des résultats remarquables en commande et identification de systèmes à paramètres variables en temps et de systèmes embarqués en réseau. Elle combine recherche fondamentale et problèmes industriels. Françoise Lamnaby-Lagarrigue.
Prix Paul Doisteau-Émile Bluté.
Le prix est décerné à Pierre Comte, professeur au laboratoire d'études aérodynamiques à l'Université de Poitiers. Pierre Comte a fait des découvertes importantes sur la structure tourbillonnaire fine des zones de mélange et des couches limites subsoniques et supersoniques. Il a appliqué de nouvelles techniques de simulation numérique des grandes échelles et de traitement de l'image. Pierre Comte.
Prix Henri de Parville.
Le prix Henri de Parville, Arthur Dufay, Madame Hamel, née Langlois, est décerné à Alain Combescure, directeur du laboratoire de mécanique des contacts et des structures à l'INSA de Lyon. Alain Combescure est un remarquable ingénieur-chercheur spécialiste de mécanique numérique dans le domaine des structures. Ses contributions essentielles portent sur la tenue au flambement des structures avec imperfection, sur la modélisation de la stabilité et de la propagation dynamique des fissures, et sur la modélisation numérique par sous-structuration en espace et en temps qu'il applique à des problèmes de dynamique rapide. Alain Combescure.
Prix Edmond Brun.
Le prix est décerné à François Vuillot, ingénieur de recherche à l'Office national d'études et de recherche aérospatiale, ONERA, à Châtillon. François Vuillot est l'un des meilleurs spécialistes français de la propulsion par propergol solide. Ses travaux sur les instabilités des propulseurs segmentés sont de tout premier plan et ils ont permis des avancées substantielles dans la compréhension d'un problème qui est à la fois difficile et important sur le plan technologique. François Vuillot.
Prix Blaise Pascal du Gamny-Smaille.
Le prix est décerné à Bertrand Moury, professeur au département de mathématiques à l'Université Paris-Sud à Orsay. Bertrand Moury est un mathématicien appliqué, spécialiste de simulation numérique des phénomènes instationnaires en mécanique des fluides. Ses travaux sur la méthode des domaines fictifs et leurs applications aux écoulements dans les poumons et les écoulements avec particules sont remarquables. Bertrand Moury.
Nous passons maintenant au prix de chimie. Prix Grammaticakis Neumann.
Le prix est décerné à Jean-Pierre Desvergnes, directeur de recherche au CNRS à l'Institut des sciences moléculaires à l'Université de Bordeaux 1 à Talence. Les travaux de Jean-Pierre Desvergnes concernent la chimie et la photochimie de composés aromatiques. Jean-Pierre Desvergnes a montré le rôle des défauts cristallins dans les réactions non topochimiques de l'état solide. Il a élucidé par spectroscopie stationnaire et non stationnaire de nouveaux mécanismes photochimiques dans des sondes fluorescentes supramoléculaires. Les travaux de Jean-Pierre Desvergnes sur l'état fondamental et l'état excité lui ont conféré une notoriété internationale. Jean-Pierre Desvergnes.
Prix Jecker.
Le prix Jecker est décerné à Yvan Huc, directeur de recherche au CNRS, à l'Institut européen de chimie et biologie à Pessac. Yvan Huc a apporté des contributions majeures à la conception et à la synthèse de molécules oligomériques, mimant les structures repliées des biopolymères et capables d'interagir avec ces structures. Il a notamment permis de démontrer que la composition d'un mélange dynamique se modifie en présence d'une cible biologique de façon à amplifier les meilleurs ligands pour cette cible. Les contributions les plus importantes d'Yvan Huc portent sur l'orchestration des principes qui gouvernent le repliement des biopolymères et des oligomères et des polymères de synthèse complètement artificiels nommés foldamères. Parmi ses réalisations les plus notoires, on peut citer la découverte de la première famille d'oligomères organiques non naturels ayant la faculté de s'hybrider en double hélice, à l'instar de l'ADN, par appariement direct entre deux brins. Yvan Huc.
Prix Henri Labbé.
Le prix du docteur et de madame Henri Labbé et la médaille Berthelot sont décernés à Jean Bernadou, professeur au laboratoire de chimie de coordination du CNRS à l'université Paul Sabatier à Toulouse. Jean Bernadou a une triple formation de pharmacien, chimiste et médecin. Il a apporté des contributions majeures à la compréhension du mode d'action des composés antitumoraux d'origine naturelle tels que les ellipticines et la bléomycine. Il a mis au point une endonucléase artificielle, monopersulfate porphyrine de manganèse, qui s'est révélée un outil très utile pour la biologie moléculaire. Il a montré comment le couplage de cette métalloporphyrine à un vecteur pouvait améliorer la sélectivité de reconnaissance d'agents antiviraux ou antitumoraux. Les recherches actuelles de Jean Bernadou concernent la mise au point de nouveaux médicaments antituberculeux. Alors je remets à Jean Bernadou la médaille Berthelot et le prix, bien entendu. Toutes mes félicitations.
Merci Jean. Le prix Paul Pascal.
Le prix est décerné à Philippe Sautet, directeur de recherche au CNRS, à l'École normale supérieure de Lyon. Par une approche de chimie quantique, Philippe Sautet a apporté une nouvelle compréhension des étapes élémentaires de la catalyse hétérogène. Il a créé des méthodes de calcul originales, par exemple un code de simulation des images, et il a été un pionnier dans l'exploration par calcul des mécanismes réactionnels pour des molécules sur les surfaces de catalyseurs. Philippe Sautet a développé une méthode tout à fait originale pour la simulation des images de microscopie à effet tunnel. Cette technique fournit des informations à l'échelle atomique sur l'adsorption et la réactivité des molécules de surface. Philippe Sautet.
Nous passons maintenant au prix de biologie intégrative, le prix Dujaric de la Rivière.
Le prix est décerné à Harry Bruand, directeur de recherche au CNRS à l'Institut des sciences de la Terre à l'Université d'Orléans. Harry Bruand a étudié la façon dont la structure d'un sol influence ses propriétés physiques de rétention en eau, de conductivité hydraulique et de résistance à la pénétration des racines. Il a montré comment la densité apparente des horizons B de certains sols augmentait, ce qui non seulement réduit la productivité de ces sols, mais aussi la proportion d'eau qui s'infiltre vers la nappe phréatique, accroissant en retour la proportion d'eau qui ruisselle. Les travaux actuels d'Harry Bruand concernent la compréhension des différents processus d'infiltration, de ruissellement et d'érosion par l'étude de l'état de surface des sols cultivés au moyen des données recueillies par des capteurs radar. Harry Bruand.
Le prix Balakowski.
Le prix est décerné à Marilène Poirier. professeure à l'unité mixte de recherche réponse des organismes aux stress environnementaux à l'université de Nice Sophia Antipolis. Marilène Poirier est une entomologiste. Ses premiers travaux lui ont permis de mettre en évidence chez le moustique de nouveaux gènes de résistance à certains insecticides. Elle a par la suite étudié les mécanismes de détermination du sexe chez la drosophile et chez les hyménoptères parasitoïdes. Plus récemment, Marilène Poirier a analysé les interactions hôtes parasitoïdes. Elle a mis en évidence deux systèmes génétiques de virulence, montrant que la résistance de la drosophile à deux espèces différentes de parasitoïdes est due à deux gènes distincts. Elle a cloné l'un de ces gènes, une réalisation remarquable, qui représente le premier clonage d'un gène de résistance à un parasitoïde. Marilène Poirier.
Prix de biologie moléculaire et cellulaire génomique, le prix Boucher de Dieu.
Le prix est décerné à Jean-François Saluzzo, directeur au laboratoire Sanofi Pasteur à Lyon, pour son remarquable ouvrage « La guerre contre les virus », ouvrage publié chez Plon en 2002. Dans ce livre, Jean-François Saluzzo, dans un style très vivant, en prenant l'exemple de plusieurs virus, les uns majeurs par l'ampleur des conséquences en santé humaine, on citera variole, poliomyélite, grippe, fièvre jaune, VIH, les autres majeurs par leur extrême virulence, Lassa, Ebola, Marburg, Antan. Jean-François Saluzzo, donc, retrace avec de très nombreuses anecdotes, parfois dramatiques, parfois drôles, le cheminement des réflexions et des concepts qui ont abouti aux connaissances actuelles. Ce premier livre a été suivi d'autres ouvrages qui, eux aussi, permettent au grand public d'avoir accès aux données les plus actuelles sur les virus les plus variés. Jean-François Saluzzo.
Prix des applications des sciences à l'industrie, le prix Thurlow-Durand-Clay.
Le prix est décerné à Dominique Guyomard, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique à l'Institut des matériaux Jean Rouxel à Nantes. Les travaux de Dominique Guyomard, tant fondamentaux qu'appliqués, concernent les batteries tout solides lithium polymère par l'amélioration des connaissances des mécanismes fondamentaux qui régissent ce type de batterie, par la découverte et la mise au point de nouveaux matériaux d'électrolyte et d'électrodes positives à base de bronze oxygéné et de vanadium. Dominique Guyomard a permis de lever les verrous technologiques bloquant le développement industriel de ces dispositifs qui sont placés ou qui seront placés au cœur des véhicules électriques de demain. Dominique Guyomard.
Nous venons maintenant à deux prix généraux, le prix Domal.
Le prix est décerné à Rachida Sadat Blanchard, ingénieur et maître de conférence à l'Observatoire de Toulouse. Chercheuse spécialiste des amas de galaxies, Rachida Sadat Blanchard a effectué des travaux originaux dans l'interprétation des observations en rayons X des amas de galaxies, mettant en évidence les distributions de matière noire et baryonique et les problèmes de comparaison avec les prédictions du modèle cosmologique standard. Elle a fait preuve d'enthousiasme et de persévérance. Ce prix récompense l'originalité et la qualité de ses travaux, et aussi son mérite et son courage, tout comme ses nombreuses initiatives pour la diffusion de la science. Rachida Sadat Blanchard.
Enfin, le prix de Madame Claude Berthaud.
Le prix est décerné à Michel Audin, professeur de mathématiques à l'Université de Strasbourg. Michel Audin est reconnu internationalement comme une excellente spécialiste de la géométrie symplectique. Elle est partie initialement d'une approche topologique, pour ensuite se concentrer sur les aspects plus algébriques liés aux systèmes intégrables. Ses livres ont beaucoup de succès et d'impact. Elle a œuvré de manière soutenue pour l'intérêt général. C'est une grande scientifique. Michel Audin.
Je remercie le vice-président pour ce tour de force et nous allons passer maintenant aux Olympiades. Nous avons 4 Olympiades, 2 nationales et 2 internationales. D'abord les Olympiades nationales de physique. Le prix 2008 est attribué à un groupe de 2 élèves du lycée Eiffel de Dijon, Elena Lacroix et Marion Derriot. Les Olympiades internationales de physique ont obtenu la médaille d'argent en 2008. Yannick Bontonneau du lycée Saint-Louis de Paris, Arthur Lacoste, Frédéric Marbach, Emmanuel Chan du lycée Louis-le-Grand de Paris. Les Olympiades nationales de la chimie. Guillaume Carré, élève au lycée Bazin de Charleville-Mézières, a été classé premier et Baptiste Adou, élève au lycée Descartes de Cournon d'Auvergne, a été classé deuxième des Olympiades nationales de la chimie. Et enfin, les Olympiades internationales de chimie. En 2008, Élise Duboué-Dijon, du lycée René Cassin de Bayonne, obtient la médaille d'argent des Olympiades internationales de chimie. Bien, mesdames et messieurs, ceci termine le palmarès et maintenant nous avons le plaisir d'écouter le professeur Changeux nous faire sa lecture. Je peux demander à monsieur Changeux de venir et la parole est à vous, Jean-Pierre.
Monsieur le Président, chers consoeurs et confrères, mesdames et messieurs, chers amis, chaque année environ 5 millions de personnes meurent des conséquences du tabagisme dans le monde. Et ces décès, principalement dus au cancer du poumon, sont évitables. Leur prévention se heurte toutefois à une sérieuse difficulté. Le tabac contient une drogue, la nicotine, qui crée une dépendance aussi sévère que celle provoquée par la cocaïne ou l'héroïne. Comment une substance chimique aussi simple influence-t-elle à ce point les conduites humaines ? La question est d'une portée plus générale encore. Quelles relations s'établissent entre la chimie de notre cerveau et ses fonctions les plus élevées, comme nos capacités de décision ou notre volonté consciente? La réponse à cette question paraissait hors de portée il y a encore quelques années, et pour certains peut-être à jamais hors d'atteinte de l'approche scientifique. Un changement radical de paradigme s'est produit ces récentes années avec la convergence progressive de multiples disciplines jusque-là séparées, la physiologie, la pharmacologie, la biologie moléculaire et les sciences de la cognition. Cet exposé intitulé « Le récepteur de l'acétylcholine et la dépendance à la nicotine » en apporte l'illustration. La France a eu le privilège de voir naître sur son sol deux des pères fondateurs de cette démarche et l'un et l'autre illustrèrent notre académie. Claude Bernard, avec ses leçons sur les effets des substances toxiques et médicamenteuses, enseigné au Collège de France en 1857, met en place une méthode expérimentale qui sera la nôtre, celle de la localisation des actions des drogues. Louis Pasteur, avec ses premiers travaux, en révèle le fondement chimique élémentaire, la reconnaissance stéréospécifique. D'abord, qu'est-ce que la nicotine Et d'où vient-elle? Les Amérindiens utilisent depuis des millénaires le tabac pour lutter contre la maladie et chasser du corps des démons qui l'investissent. Ce faisant, ils montrent que la plante contient une substance active. Les Grecs anciens donnaient au principe actif de ce genre le nom de pharmakon. Ainsi est né le concept d'agent pharmacologique. Ramené en Europe par Christophe Colomb en 1492, le tabac sert de plante d'ornement jusqu'à ce que Jean Nicot, en 1560, envoie de la poudre de tabac à Catherine de Médicis pour traiter les migraines de son fils François II, et cela avec succès. La plante porte désormais le nom Nicotiana tabacum. En 1809, Louis Vauquelin en isole le principe actif, la nicotine. C'est un alcaloïde dont la formule porte une amine tertiaire avec un cycle pyrimidique et un cycle pyrolidique. On en reconnaît déjà les effets sur la migraine. Les maux de dents sont au caractère stimulant. Mais la compréhension de ce mode d'action ne progressera qu'avec l'élucidation de l'effet toxique d'une autre substance, elle aussi d'origine végétale, le curare. Claude Bernard, à nouveau, dès 1857, montre que son action paralysante n'est due ni à un effet sur le nerf, ni à un effet sur le muscle. Le curare bloque la transmission entre fibres musculaires et fibres nerveuses. John Newport Nangley, inspiré par l'œuvre de Claude Bernard, franchira en 1905 une étape supplémentaire importante pour nous. Il applique la nicotine localement à la surface du muscle, provoque sa contraction et montre que l'effet est bloqué par le curare. Il observe ensuite que la surface du muscle qui répond à la nicotine est exclusivement localisée sous la terminaison nerveuse et note que cette sensibilité persiste après dénervation. Il appelle, je cite, « substance réceptrice », on appelle cela aujourd'hui « récepteur », la, je cite, « substance du muscle qui se combine avec la nicotine et le curare et qu'il distingue de la substance qui se contracte ». Fin de citation. Enfin, à la même époque, Elliott propose qu'une sécrétion stimulatrice, je cite, libérée par le nerf, entraîne la contraction du muscle. Elle sera appelée neurotransmetteur et sera identifiée plus tard, c'est l'acétylcholine. La nicotine simule l'effet de l'acétylcholine et le récepteur commun à la nicotine et au curare, qui est présent à la surface du muscle, est le récepteur de l'acétylcholine. Acétylcholine et nicotine sont des agonistes du récepteur de l'acétylcholine et le curare, un antagoniste. L'acétylcholine est dégradée par l'acétylcholinestérase, un enzyme que bloquent les gaz de combat, alors que la nicotine n'est pas dégradée, ce qui rend son action beaucoup plus stable. D'une manière plus générale, il existe une palette chimique de plusieurs dizaines de neurotransmetteurs dans notre système nerveux. Et comme l'a montré Thomas Hochfeld, qui reçut ici la grande médaille de notre académie, plusieurs de ces neurotransmetteurs peuvent coexister dans une même cellule nerveuse. Pendant des décennies, le concept de récepteur est resté théorique, souvent mis en doute, beaucoup pensaient même que présent dans des tissus en quantité si infime, il ne serait jamais caractérisé chimiquement, jusqu'à ce que dans les années 70, il soit identifié dans mon laboratoire à l'Institut Pasteur. Ce succès, je dois peut-être à l'enseignement de la zoologie que je reçus de mon premier maître, Claude Delamarre de Bouteville, car grâce à lui et à ses collègues naturalistes, j'appris que le poisson torpille et l'anguille électrique possèdent un organe électrique extrêmement riche en synapses, toutes du même type. Sa très grande richesse en matériel cholinergique fut en fait découverte à Paris par David Nartmanson dans les années 30, alors qu'il travaillait avec notre regretté confrère René Couteau. Ensuite, il s'avéra nécessaire de trouver un marqueur qui étiquette très sélectivement le récepteur. La nicotine, le curare, n'était pas suffisamment spécifique. Et ce fut une petite protéine purifiée dans les années 60 par un pharmacologue de Taïwan, Chen Yuan Li, à partir du venin du serpent bungar, qui apporta la solution. Cette protéine déplaçait avec une sélectivité extrême la liaison d'un analogue radioactif de l'acétylcholine sur des membranes synaptiques d'organes électriques, et cela in vitro. Cette liaison avait donc lieu au niveau du site récepteur. Comme le proposait Louis Pasteur dès 1886, il existe bien, je cite, un corps actif dissymétrique qui intervient dans l'impression nerveuse. Fin de citation. Il devenait possible de caractériser la protéine membranaire qui, une fois solubilisée par un détergent doux, était purifiée et observée en microscopie électronique à partir de nos préparations par Jean Cartaud. L'image de ces rosettes d'environ 90 angstrom de diamètre qui tapissent la membrane sous-synaptique, vue au microscope électronique, frappa les esprits. On voyait pour la première fois un récepteur de neurotransmetteurs. C'était également le premier canal ionique identifié chimiquement. D'une masse moléculaire d'environ 300 000, la protéine réceptrice forme une sorte de faisceau compact de 5 sous-unités qui traverse la membrane sous-synaptique. Elle porte les sites récepteurs de l'acétylcholine et de la nicotine sur sa face exposée à l'espace synaptique et contient un canal ionique sélectif pour les ions sodium et potassium dans sa partie membranaire. Nous sommes maintenant dans les années 80. Plusieurs groupes dans le monde, dont celui de Shosaku Numa à Kyoto et le nôtre, identifient la séquence complète du récepteur de torpille. La structure de la molécule se dévoile progressivement. Celle du site du neurotransmetteur, donc de l'acétylcholine et de la nicotine, est aujourd'hui connue au niveau atomique, grâce à la découverte, encore de la zoologie, chez un escargot d'eau douce, par Gus Smith et Ticia Sixma, d'une petite protéine soluble qui se cristallise facilement. Le site apparaît comme une poche bordée d'acides aminés aromatiques qui s'adaptent de manière complémentaire et étroitement imbriquée à la molécule d'acétylcholine comme à celle de nicotine. Désormais, une conception rationnelle de nouveaux médicaments qui s'ajustent avec précision au site récepteur devient possible. Le canal ionique, par où passent les ions sodium et potassium, a longtemps posé un problème pour le chimiste. Comment identifier un trou ? Une première solution réalisée dans le laboratoire dans les années 80 a été d'utiliser une molécule bouchon comme marqueur. Une autre, effectuée par Bert Sackmann et collègues, a été d'enregistrer des ouvertures uniques du canal après mutation. Résultat, le canal se loge dans l'axe de symétrie de la molécule au niveau du domaine qui traverse la membrane et où des acides aminés chargés négativement vont contrôler le passage des ions sodium et potassium. Sur un plan plus général, pardonnez-moi d'entrer dans le détail de la chimie de cette protéine, l'organisation de la molécule de récepteur assure la transduction du signal chimique en réponse électrique. Comment deux sites distincts, le site de l'acétylcholine, le neurotransmetteur et le canal ionique, peuvent-ils être rendus solidaires au niveau du récepteur ? Il y a bien des années, dans la conclusion de la thèse que je passais en 1964, sous la direction de Jacques Monod et de François Jacob, je prenais le risque de proposer sans preuve une analogie possible entre des enzymes régulateurs bactériens sur lesquels je travaillais et les mécanismes de la transmission synaptique. Le problème de ma thèse était de comprendre comment deux petites molécules différentes, un substrat et un signal régulateur métabolique, pouvaient s'inhiber au niveau de la molécule d'enzyme. Les données expérimentales ne s'accordaient pas avec l'idée qui est classique pour le chimiste d'une exclusion mutuelle au niveau d'un site commun. Au contraire, elle plaidait en faveur d'un modèle suivant lequel les deux sites concernés étaient topographiquement distincts et pour lequel le terme allostérique fut créé. Interaction indirecte entre deux sites topographiquement distincts était suggérée, transmise par un changement conformationnel de la molécule de protéine. Dans le cas du récepteur de l'acétylcholine qui nous concerne, site récepteur et canal ionique sont distants de plus de 30 angstroms. Une transition de ce type intervient-elle? Eh bien, elle a été tout récemment résolue au niveau atomique, et là encore, la diversité prodigieuse du monde vivant nous a aidés. Il existe en effet, chez des bactéries photosynthétiques très anciennes, des récepteurs canaux semblables aux récepteurs de l'acétylcholine. Ces récepteurs sont de surcroît fort stables et plus simples que le récepteur animal. Ils ont été isolés, cristallisés par un de mes collaborateurs, récemment devenu un collègue à l'Institut Pasteur, Pierre-Jean Coringer, et déchiffrés par cristallographie par Marc Delarue, leur collaborateur, toujours à l'Institut Pasteur. La transition allostérique existe chez ces récepteurs et se présente comme une sorte de mouvement de torsion discret de la molécule, un twist qui solidarise site actif et canal ionique, entraînant ouverture ou fermeture de celui-ci. Nos communications cérébrales héritent donc de mécanismes moléculaires qui sont apparus sur notre planète il y a quelque 3 milliards d'années. Non pas du fait d'un quelconque dessein intelligent, j'insiste, mais à la suite d'une longue évolution darwinienne qui commença dès l'origine de la vie. La littérature sur les récepteurs a, au cours des dernières années, littéralement explosé. 652 000 articles ont été publiés sur les récepteurs en général, 45 800 sur les divers récepteurs de l'acétylcholine. Le champ s'est d'autre part considérablement diversifié, d'abord à d'autres récepteurs canaux, comme celui du neurotransmetteur inhibiteur, le GABA, l'acide gamma-aminobutyrique, cible de ces tranquillisants, les benzodiazépines, dont hélas trop de nos concitoyens abusent. D'autres récepteurs très nombreux sont liés non pas à un canal ionique, mais à une protéine G. D'autres, comme le récepteur TOL, étudié par notre président, ont des modes d'action différents, mais tous se présentent comme des protéines allostériques membranaires. Des anesthésiques généraux tranquillisants, des agents antipsychotiques aux effecteurs cardiovasculaires, environ 46% des médicaments utilisés de nos jours ont pour cible des récepteurs membranaires. Dans cet immense répertoire, le récepteur de l'acétylcholine reste une molécule de choix, connue au niveau atomique et engagée dans des fonctions cérébrales essentielles concernées par d'importantes pathologies chez l'homme. Il existe 17 gènes codant pour les sous-unités du récepteur dans notre génome, et celles-ci s'assemblent en un répertoire très riche distribué dans de multiples territoires de notre cerveau. Comment en élucider le rôle dans les multiples fonctions de l'acétylcholine? Cycle veille-sommeil, attention et apprentissage, système de récompense et bien sûr, processus d'addiction à la nicotine. La stratégie que nous avons développée exploite les multiples possibilités offertes par le modèle de la souris génétiquement modifiée. Elle procède en plusieurs étapes, invalider le gène d'une sous-unité définie, puis analyser quantitativement la physiologie cérébrale et le comportement de l'animal, ensuite réexprimer le gène en un site critique du cerveau à l'aide d'un vecteur lantiviral mis au point dans mon laboratoire il y a 3 ans par UV Mascos. L'expérience a été réalisée avec le gène d'une sous-unité dite bêta 2. En son absence, la souris perd la capacité de s'auto-administrer la nicotine. Simultanément, un autre comportement change. Au lieu de s'attarder à explorer avec attention son environnement, en quelque sorte à fureter, la souris navigue de ci, de là, sans relâche. Le site choisi pour la réexpression du gène n'a pas été pris au hasard. C'est l'aire tegmentale ventrale. À ce niveau se trouve le corps de neurones qui contiennent la dopamine, dont vous avez certainement entendu parler, comme neurotransmetteur spécialisé dans les processus de récompense. Les souris, ainsi vectorisées, réacquièrent les traits comportementaux perdus. Elles s'auto-administrent à nouveau la nicotine et le comportement exploratoire qui était perdu réapparaît. Le récepteur nicotinique contenant la sous-unité bêta 2 sert donc de trait d'union critique entre la libération interne dans notre cerveau d'acétylcholine et la récompense dopaminergique. On commence ainsi à saisir, pas à pas, les mécanismes moléculaires engagés dans les effets aigus de la nicotine, mais aussi ceux engagés dans les conséquences de son usage chronique. Des adaptations à long terme ont lieu dans l'expression et le rôle des sous-unités du récepteur nicotinique dans notre cerveau. Une réorganisation fonctionnelle des circuits cérébraux intervient pour assurer en quelque sorte une homéostasie de nos fonctions cognitives en présence chronique de nicotine. En contrepartie, la présence chronique de drogue devient indispensable. Plusieurs sous-unités du récepteur nicotinique sont engagées dans la mise en place de cette dépendance, d'autres dans l'apparition des signes d'abstinence lors du sevrage tabagique. Il est remarquable que cette année, 3 études épidémiologiques indépendantes soulignent l'importance de 3 gènes codant pour des sous-unités du récepteur nicotinique comme prédisposant au cancer du poumon. Elles sont appelées alpha-3, alpha-5 et bêta-4. Mais bien qu'averti des risques qu'il court, le fumeur, souvent, continue de fumer, incapable de mettre en pratique sa volonté d'arrêter. Il y a à cet égard perte du contrôle conscient. Or, l'examen par imagerie cérébrale du cerveau d'adolescents ayant fait un usage intensif du tabac et soumis au sevrage révèle une diminution d'activité ou dans notre cerveau, au niveau du cortex frontal. Peut-être existe-t-il une vulnérabilité particulière à la nicotine de ce réseau cérébral qui inclut notre cortex frontal et que Stanislas Dehaene et moi-même supposons donner accès à la conscience. Ces résultats suscitent une activité considérable de la recherche pharmaceutique sur les récepteurs nicotiniques, d'abord dans le domaine de la dépendance tabagique, ensuite dans celui de pathologies liées au tabagisme, comme dans le cas de la femme enceinte, la mort subite du nourrisson ou l'hyperactivité de l'enfant. Mais également, fait paradoxal, dans le champ des maladies dégénératives, comme les maladies d'Alzheimer et de Parkinson, et même la dépression, où les agents nicotiniques peuvent potentiellement servir de neuroprotecteurs et de stimulants cognitifs. La compréhension des mécanismes allostériques engagés dans le mode d'action de l'acétylcholine et de la nicotine réoriente notre manière de concevoir des médicaments. Que l'on cible le site récepteur ou le canal ionique, il faut désormais prendre en compte la dynamique de leur changement conformationnel et identifier des clés qui ouvrent et des clés qui ferme le canal ionique et qui s'adapte à chacun des états allostériques du récepteur. Plus inattendu, une catégorie singulière de molécules appelée modulateur allostérique modifie cette dynamique en se liant en dehors des sites classiques, sites actifs et canal ionique, mais sur des sites d'un type nouveau. Les espoirs thérapeutiques de cette nouvelle pharmacologie sont importants. Les progrès dans la chimie du cerveau et les progrès majeurs de la neuroscience en général soulèvent, il fallait s'y attendre, d'importantes questions d'éthique. On sait le détournement possible de ce savoir avec le développement passé des gaz de combat ou ces diverses tentatives de contrôle chimique des conduites humaines. C'est notre responsabilité, celle de notre académie, de veiller avec fermeté à ce que ces détournements ne se produisent pas. Elle est aussi d'affirmer notre volonté d'utiliser ces connaissances pour inventer ensemble un futur qui conduise à une vie meilleure et plus harmonieuse pour tous. Je vous remercie.
C'était Jean-Pierre Changeux, neurobiologiste, membre de l'Académie des sciences, professeur au Collège de France. Il clôturait cette première cérémonie de remise des grands prix de l'Académie des sciences qui a récompensé une cinquantaine de scientifiques français et étrangers pour leurs travaux. Les autres scientifiques lauréats pour cette année 2008 seront récompensés fin novembre. Vous retrouverez très prochainement la retransmission de cette seconde partie dans notre rubrique « Sous la coupole ». Merci de votre écoute et à bientôt.